J'aime beaucoup la parabole de l'enfant prodigue parce qu'elle nous relate des situations qui sont vécues dans nos familles. Un père accepte de laisser partir son cadet, désireux de vivre pleinement sa liberté. Il consent même à lui donner tout de suite sa part d'héritage. Parti vers un lointain pays, le fils prodigue mène une vie de débauché, une vie débridée, libertine. Et très rapidement, il se voit réduit à une grande misère. Il s'embauche auprès d'un fermier de la région pour garder les porcs. Affamé, rempli de remords, il vient à reconnaître ses torts et décide donc de retourner chez son père et de lui demander d'être traité désormais comme un serviteur. Mais quand le père l'aperçut de loin, il court à sa rencontre, le presse sur son cœur, le revêt d'un beau vêtement et de belles sandales, lui glisse une bague au doigt. Il fait même apprêter un veau gras et organise une grande fête. Il déclare sa joie de retrouver son fils qui est revenu à la vie. Lui qui était mort, il était perdu et il est retrouvé. Le père ne lui fait aucun reproche, aucune parole désobligeante. Il le couvre de baisers, il le réaccueille dans sa maison et il le reprend comme son propre fils. Ce bon père de famille a beaucoup, et ici, là, je pense qu'il faut prendre la version aussi de bon père et bonne mère. Souvent, c'est les parents ensemble hein, qui vont souffrir de voir partir un fils cadet, quitter la maison. Ce dernier qui voulait faire l'expérience de sa liberté, bien, il part au loin et il connaît la famine, la faim, la misère. Il connaît un petit emploi décevant. Il se met alors à réfléchir et prend conscience de son bonheur perdu. Et il se dit en lui-même, « Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes nourris. » Alors, c'est toute une mise en scène. Jésus, quand il prend des paraboles comme ça, c'est une histoire, c'est c'est souvent inspiré par ce qui se passait autour de lui. Et ça arrive souvent, c'est dans les familles, des fois que, bon, un des enfants part à un moment donné. Il n'est pas en chicane comme tel contre son père, le fils prodigue. Donc, il veut connaître d'autres choses. Alors, il dit à son père, ben, je pourrais-tu avoir tout de suite mon héritage, puis je vais aller travailler en or. Alors, le fils prodigue, il a son héritage, alors il a plus d'argent dans ses poches. Alors, il mène une vie un peu de prodigue, justement. Il dépense, il regarde pas à la dépense. Il n'est pas comme Séraphin, en tout cas. Là. Il dépense, puis il mène la vie, puis il est bien, bien conscient que ça va avoir un bout, ça, à un moment donné. Puis quand la famine, puis la faim, puis le remords le pognent, bien nécessairement, tout ce qu'il pense tout de suite, c'est « Hey, je vais retourner à la maison. Mon père est là, ma mère est là, il y a son frère aîné. Oups, lui, il est là, mais je te dis qu'il n'est pas content. Il ne veut rien savoir de ça, lui. Le fils aîné est fâché, jaloux. À son retour des champs, il entend la musique, des cris de joie. Et quand il apprend que cette fête a été organisée par son père pour son frérot, délinquant et courailleux, il fait une crise. Il reproche même à son père de ne pas tenir compte de sa fidélité et de sa loyauté. Hein, j'ai toujours été un bon fils pour toi. Tu m'as jamais fait faire tuer le veau gras pour moi. Puis là, le père ben, dit, écoute, ton frère, il était perdu. Puis il est retrouvé. Il fallait fêter ça. Et il veut même pas rentrer. Le fils aîné veut même pas rentrer dans la salle où c'était la fête. Il était tu. Il veut rien savoir. Il connaît pas ça, la compassion. Lui, c'est vraiment ma propre personnalité à moi. Puis là, ben, mon père, il m'a joué un tour, il a passé un peu, là, il fait dépenser son argent par un frère qui a vécu dans l'opulence, puis dans proche d'une vie de débauche. Alors, il fait des reproches à tout le monde. Le fils aîné, c'est difficile parce que il prend conscience, lui, que, bon, son père, il l'aime plus. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Son père, il dit, écoute, là, tout ce qui est à moi est à toi. Hein? Ça arrive souvent. C'est des situations un peu difficiles parce que, avez-vous remarqué que les conflits qui sont vécus dans une famille ou dans un groupe très serré, là, c'est les pires conflits. Je ne sais pas, on dirait que les gens sont à fleur de peau, hein, puis si Dieu fait une petite affaire croche, là, oh là là, ils débarquent tout de suite, puis ils deviennent un peu méchants. Les conflits familiaux, des fois, c'est les pires conflits. Surtout quand il y a de l'argent en cause. Et des fois qu'on est sévère. Bien, cet évangile-là nous montre un peu une situation comme ça. Un bien bon père de famille, une bonne famille, puis des enfants, on traverse ça avec un fils prodigue, puis un fils aîné. Puis là, bien, on dirait que c'est ça qui se brasse, tout ça. Là. Et tout ça pour dire ce que saint Paul nous dit dans son épître, « Laissez-vous donc réconcilier avec Dieu. » Traîne pas dans ton cœur des vieux remords, des vieilles affaires. Ah, il m'a fait telle chose, je m'en souviendrai, j'y parle plus. Puis là, la chicane pointe. Et ça, c'est dur à vivre, très dur à vivre. Le fils prodigue, ben, c'est un bon garçon malgré tout. C'est pas quelqu'un de méchant. Lui non plus, il comprend pas que son frère veut pas rentrer dans la salle de fête. Mais il laisse passer. Il laisse passer. Et c'est des situations, justement, que ben des pères et des mères de famille vivent des fois. Moi, je vois ça surtout en prison. Vous savez, quand un fils fait un mauvais coup et qu'il est emprisonné, pour la famille, c'est tout un défi. Hein? Il y en a qui ne veulent plus rien savoir. Il a voulu faire telle chose, qu'il s'arrange, je le renie. Ça, c'est dur aussi. Par contre, il y en a qui sont d'un cœur très généreux. Moi, je vois des fois des jeunes qui me disent « Je suis content d'avoir encore mon père et ma mère à côté de moi qui vont m'aider à traverser cette épreuve-là. J'ai fait un mauvais coup, j'ai fait une bêtise, mais au moins je peux m'appuyer sur eux autres pour pallier à ça, pour recommencer une vie meilleure. » Moi, dans ce temps-là, je leur dis « Heureux sois-tu d'avoir une bonne famille. » Parce que c'est la base de tout ça. Bah, voilà, fais-leur confiance à tes parents. Quand tu retrouveras ta liberté, compte sur eux autres, mais va lui dire surtout merci. Va lui dire que tu es reconnaissant pour ce qu'ils t'ont aidé à traverser comme épreuve. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça vient toucher le cœur de mère, de père dans une famille. Et souvent, je vois ça souvent, les prisonniers peuvent compter sur leurs parents. Je pense que tout de suite, c'est 50% de leur réconciliation avec eux-mêmes, puis avec Dieu et avec leur famille. Et heureux les gens qui peuvent compter là-dessus. Alors, c'est une parabole qui est très belle. On peut la relire souvent, puis ça nous aide à comprendre des fois certains conflits qu'il y a dans nos familles, certaines façons de réagir à des situations difficiles. Et je termine en vous disant ceci. Devant une situation comme ça, ben, il faut se tourner vers Dieu et se laisser réconcilier avec Dieu. Et se laisser réconcilier avec les autres. Et se laisser réconcilier avec soi-même. Et tout ça, ben, ça fait à un moment donné qu'on va traverser certaines épreuves. Et notre Père des cieux comprend souvent nos déviances, nos lâchetés. Et dès que nous avouons notre péché, il nous offre son pardon et sa miséricorde. D'ailleurs, Dieu se réjouit à chaque fois qu'un pécheur se convertit. Ma conclusion que je tire de ces situations est très simple. Le bon Dieu sera toujours le bon Dieu. Et en plus, il est notre Père. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite à tous et à toutes. Au nom du Père. Fils et du Saint-Esprit. Amen.